Vogue numéro 1 de ce top en juin 1990 sur RTL. On se quitte là-dessus. Rendez-vous demain 21h, 22h pour bonus track, évidemment, avec un top 10 qu'on va consacrer au mois de juin 1982. Allez, ciao. Caroline prend le relais tout de suite après les infos. Il est 22h sur RTL. Les infos, c'est avec la rédaction d'RTL. Bonsoir.
À Nogent, en Haute-Marne, ce matin, une surveillante a été poignardée par un élève de 14 ans devant son collège. Sa mort a suscité un torrent d'émotions dans le pays. Elle était mère d'un petit garçon de 4 ans. Au journal de 20h ce soir, le Premier ministre François Bayrou promet d'interdire tout de suite la vente aux mineurs de tous les couteaux. Il veut élargir la liste des armes blanches interdites à la vente et systématiser les contrôles de l'âge pour les colis. Le président de la République, Emmanuel Macron, interrogé lui sur France 2 et sur la même longueur d'onde, et toujours dans l'objectif de lutter contre la violence des plus jeunes, il affiche une ambition, interdire l'accès aux réseaux sociaux.
On a lancé la mobilisation, moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire, parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge. Tous nos jeunes, ils sont sur ce qu'on appelle le Pronote. Vous rentrez, vous le savez, si vous êtes parents d'élèves, pour les carnets. Donc on sait, avec Pronote, avoir un numéro d'identifiant et dire, est-ce que tu as plus de 15 ans ou moins de 15 ans? Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France.
À l'étranger, le président américain Donald Trump continue d'envoyer des troupes en Californie. Il assure que sans l'armée, Los Angeles serait en train de brûler. Des milliers de soldats et policiers sont déjà déployés dans la ville en réaction aux manifestations contre les expulsions de migrants. Le gouverneur démocrate de Californie ne compte pas en rester là. Il demande à la justice d'empêcher le déploiement des soldats par la Maison-Blanche, accusant Donald Trump de se comporter comme un tyran. Emmanuel Macron l'a confirmé il y a quelques minutes, il se rendra dimanche en visite officielle au Groenland, ce territoire qui appartient au Danemark et convoité depuis de longs mois par Donald Trump. Le président français veut éviter toute prédation et menace. Le territoire est situé dans un passage stratégique et dispose de nombreuses ressources naturelles. Enfin, le PSG retient les candidatures de deux villes pour son projet de futur stade. Le club veut approfondir ses études sur les sites de Massy en Essonne et de Poissy dans les Yvelines pour construire un stade de 60 000 à 90 000 places, capacité bien plus élevée qu'au Parc des Princes, seulement 48 000, tous les projets d'agrandissement antérieurs ayant été refusés. La météo de demain, encore une très belle journée, même si les nuages sont plus nombreux sur la façade atlantique et les Pyrénées. Quelques gouttes possibles et des orages en soirée. Les minimales de 10 à 15 degrés au nord, 17 à 20 degrés au sud, 20 à Cherbourg, 27 à Toulon et Mulhouse, 28 à Paris et Caen. Les maximales, 36 degrés à Bordeaux, Montauban, Agen, Cognac dans le sud-ouest. Et bien sûr, les courses demain, ce sera à Caen. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 5, le 6, le 4, le 3, le 2 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le 13, Japlot Turgot. RTL, il est 22h03, tout de suite, c'est Caroline Dublanche.
Bonsoir Thomas, et on vous retrouvera bien sûr à 23h.
RTL.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Oui, défi du jour, résistez à vos belles nectarines françaises jusqu'à la maison.
Nos nectarines blanches ou jaunes à 2,95€ le kilo du 11 au 12 juin, ce sont les premières, elles sont délicieuses.
Non bah vous m'aidez pas là, je vais craquer.
Tenez bon, et chaque semaine, profitez de 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 61-67 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
RTL.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour dialoguer avec vous sur tous les sujets qui vous concernent, qui vous préoccupent. Toutes nos pensées, notre soutien vont ce soir vers la communauté éducative, une fois encore si durement éprouvée. Et dans cette actualité tragique, nous avons bien besoin d'apaisement. C'est ce que nous vous proposons chaque soir sur RTL, un temps d'introspection pour faire le point dans vos vies agitées, pour évacuer le stress. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul, sous le regard complice et attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. 09 69 39 10 11, place à vos appels et à vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci à vous aussi, bienvenue dans mon cœur et dans mon esprit.
C'est joliment dit.
Ben, je suis un poète, madame.
Ah bon, d'accord.
Je vous présente mes hommages de la soirée.
Merci.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions actuellement dans le climat social.
Oui.
Beaucoup d'angoisse, de tensions, de...
Oui.
De surcharge, quoi.
Ah oui, oui.
Alors, j'évite de sortir parce que c'est terrible ce que je constate et ce qu'on me raconte.
Vous évitez de sortir pour...
Ben oui, je deviens antisocial.
Tu perds ton sang-froid. On a le Trust, hein, si vous voulez. Vous vous souvenez de la chanson du groupe Trust?
Oui,
antisocial,
oui, oui.
Tu perds ton sang-froid.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.
Ah, moi, je la connais par cœur.
Oh là là.
Ah, oui, c'est dommage. Donc, vous habitez dans une... Vous vous sentez en insécurité, là où vous habitez?
Oui, oui, quand même. C'est un quartier assez violent où la communication est très difficile, voire impossible, puisque c'est des ethnies qui arrivent de partout, ils sont 18 millions. Enfin, ils ont un bon nombre quand même. Hein. Je ne vais pas trop aller sur un terrain glissant
non.
comme ça.
Non, parce que la violence, on voit malheureusement avec encore ce qui est arrivé... ça concerne enfin beaucoup de, malheureusement, y compris des jeunes. Enfin, il y a un vrai problème de santé mentale au-delà de la culture.
De santé mentale, d'éducation, de responsabilité, d'auto-introspection qui n'est pas faite. Et puis d'égarement, quoi. D'égarement parce que faut survivre, il y a des factures, faut être responsable de tous les côtés. Et les femmes seules n'y arrivent pas, et puis les couples, c'est plus ou moins la catastrophe.
Enfin, pas alors pour moi, tout le monde en même temps, oui. Heureusement. Hein, c'est-à-dire que la situation est déjà suffisamment anxiogène pour ne pas noircir le tableau qu'il est déjà. Mais alors, dites-moi, vous vivez dans une grande ville ? Parce que vous me parlez de quartier.
Oui, je vis à Marseille, vous voyez.
À Marseille,
oui. Où on discute avec les couteaux et les kalachnikovs.
Vous vivez dans les quartiers nord.
Ah oui, oui. Bon, moi, ça va, j'ai un petit pavillon. Je suis locataire, j'ai un jardin, j'ai un petit chat qui est adorable. Une petite chatte qui est venue à ma porte, qui m'a dit « Adopte-moi, je suis toute seule.
Oui, » c'est dit ça, c'est un refuge.
Il y a des gros chats qui me poursuivent.
Oui.
Oui.
D'accord.
Alors, j'ai recueilli le... Et puis, maintenant, on est des amis inséparables. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'est un petit animal qui m'a appris beaucoup de choses. Comme la précision, la stabilité, le respect, la liberté des distances à prendre.
Vous étiez fait l'un pour l'autre.
Oui, c'est ça. Fait l'un, oui, vous pouvez le dire. Fait l'un pour moi, en tous les cas.
Oui.
Et donc, j'en suis bien heureux. Et puis, comme elle est très comique, et moi, je passe beaucoup de temps aussi à écrire des sketchs et à lire tout ce qui est comique. Le sage dit, l'homme qui sait rire de lui-même ne manquera jamais de rire. Vous voyez ? J'écris un livre de citations en ce moment, de métaphores, de maximes, de...
Vous avez toujours aimé l'écriture.
Ah oui, 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 je suis très littéraire, je suis comme les avocats, moi, vous savez.
Oui, oh, c'est une autre forme. Et c'était votre métier ou pas du tout?
Non. Au début, j'étais inintégrable à la société à cause d'une famille quand même très, très dysfonctionnelle, d'une mère relativement incestuelle, dans le climat incestuel.
Oui.
Sans passage à l'acte.
Oui.
Mais elle faisait une projection psycho-affective sur moi, un petit peu trop forte par rapport à son mari qui était un alcoolique, un peu pas mal déjanté, quoi.
Oui.
Qui était très, très irresponsable, violent, gros buveur, voleur, enfin bref, un tas de trucs comme ça. Alors, je suis sorti de là-dedans. Disons vers 15 ans, quoi, je suis parti à l'aventure.
Et ah bon?
Il a fallu que j'apprenne un métier par moi-même.
Ah oui, vous avez quitté la maison
Oh bah oui, je dormais dans les caves à charbon. Dans les tentes de camping, etc. Quoi. Ah bah oui, j'ai eu vraiment...
Oui, c'était une autre époque aussi.
Ouais, bah c'était les années 60, 68. Les babas cool, quoi, Jimmy Hendrix et compagnie, quoi. Alors, on s'éclatait un peu à notre façon. Hein. C'est toujours mieux que le suicide. Hein. J'encourage pas le shit parce que ça provoque quand même des paranoïas aiguës qui s'amplifient. Ça provoque des bipolarités qui s'amplifient. Et des phénomènes schizophréniques relativement importants, même si on n'est pas au début marqué par cette maladie.
Mais alors, vous avez appris un métier, vous dites, vous dormiez dans les caves à charbon, c'est-à-dire que comment, qu'est-ce que vous...
Plus maintenant.
Bah, j'espère pour vous. Vous avez maintenant un pavillon avec un petit jardin. Oui.
Je suis devenu un petit bourgeois. Quoi.
Ah, bah un écoutez, petit... beaucoup de ceux qui ont survécu des babacools ont fait comme vous. Et après tout...
Je fais partie de la gauche caviar.
Oui, bon... C'est peut-être un bien grand mot. Et alors finalement, ce soir, vous appeliez parce que vous aviez une question particulière à me soumettre.
Oui, c'est un sujet particulier qui me tient à cœur depuis des années, qui me taraude, puisque j'ai fait partie d'un groupe mystico-galactique et le gourou nous demandait de ne pas éjaculer, de préférence.
Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
De ne pas éjaculer. La prostate.
Mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce groupe? Enfin, on peut l'imaginer au vu de ça, mais.
C'était un groupe d'études, quoi, sur la connaissance générale de soi et de l'univers.
Oui, mais vous parlez d'ailleurs, vous-même, vous avez quand même un regard critique, puisque en parlant d'un groupe mystico-galactique et de gourous.
Ah oui, je suis critique, je suis corrosif même.
Comment vous êtes arrivé là-dedans, à rejoindre ce groupe?
C'est le désœuvrement d'une jeunesse qui ne sait plus à quelle porte frapper pour trouver des réponses.
Oui.
J'avais un copain qui était là-dedans, qui m'a dit « Viens voir,
c'est
quelque chose qui te correspond là-dedans. »
Vous étiez jeune, c'était dans les années aussi 70
Oui, les années babacool, quoi.
D'accord, oui, parce que moi j'étais revenue, vous voyez, à aujourd'hui. Mais bon, il y a aussi des groupes...
Mais ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de les côtoyer, mais je les côtoie plus.
Ils existent encore?
Ah oui, ils existent encore, je les ai côtoyés... il y a 15 ans que je les ai quittés totalement, quoi.
Ah, mais oui, en effet.
Donc, ça fait un bon paquet d'années déjà. Quoi.
Et vous les avez quittés en quel terme?
En termes assez mitigés, quoi. Puisque je tourne le dos au gourou, que je critique le gourou,
et
que j'insulte même le gourou, alors là, je suis cuit, là. Tout le monde me tourne le dos.
Oui, il exerce toujours son autorité sur les...
Oui. Avant, il avait beaucoup d'emprise.
Il doit plus être très jeune, le gourou, alors?
Et non, maintenant il a 80 piges à peu près.
Oui.
Et puis donc il avait une emprise, au début les belles minettes, il se les réservait. Il provoquait des divorces entre les couples pour se rapatrier les plus jolies filles et puis faire ses petites affaires de temps en temps, quoi. C'était un peu le patriarche incontournable, quoi. Fallait soumission, silence et
bah
obéissance.
Oui.
C'était vraiment une emprise avec toutes sortes de manipulations, quoi. Alors moi, il y a un moment, j'en ai eu marre, je lui ai dit, c'est quelques vérités. Surtout, une chose qui n'a pas été comprise pour tout le monde et qui n'a pas été développée, c'est que il déconseillait fortement.
Oui.
Il y avait ceux qui éjaculent, c'était pas les bons. C'était pas les bons disciples, ils avaient rien compris. Et il y a ceux qui n'éjaculent pas, par un système tantrique, par la force mentale ou en mettant les mains sous le périnée.
Oui.
Ils empêchaient la prostate d'évacuer normalement.
Oui, enfin, on voit où se situer, parce que entre, vous voyez, le mystique, il était bien centré sur cela, parce que le tantrisme, c'est quelque chose de connu et où effectivement il y a le fait de se retenir, mais pas seulement, ça serait caricatural de le résumer à cela. Mais là, vous dites bien d'ailleurs, finalement, cette fixette sur ça, donc il y avait ceux qui y arrivaient, ceux qui n'y arrivaient pas, enfin tout tournait autour de la sexualité dans ce groupe finalement.
Oui. C'était pas l'obsession prioritaire dans ce groupe.
Ah bon ?
Non. L'obsession prioritaire, c'était se sauver de la mort. Oui, c'est ça, éviter la mort.
Donc il avait trouvé une drôle de façon de se sauver de la mort, lui.
C'était une des façons.
Oui, d'accord.
Il n'y avait pas que ça pour se sauver la vie, pour éviter la mort, et puis peut-être devenir comme le curé d'art ou Padre Pio, je sais pas. C'est des gens qui sont dans l'Immaculée Conception et le corps reste toujours vivant dans un coffre transparent. Mais là, c'était plutôt une transformation mystique tout en lumière.
Vous êtes resté combien d'années ? Parce que vous dites finalement c'était dans les années 70, vous l'avez quitté.
Je suis resté à les côtoyer sans les comprendre et sans vraiment familiariser avec. J'étais complètement à part, je n'intégrais pas sur le plan personnel individuel, il n'y avait pas réellement d'amitié, c'était Dieu pour tous et chacun pour sa gueule. Alors, il y avait des rapports très très hypocrites, tout le monde balançait tout le monde, tout le monde s'aimait et personne ne s'aimait. C'était assez bordélique quand même, hein. Moi j'ai trouvé, je sais pas, inutile et complètement idiot, non.
Il y avait des enfants ?
Non.
Non, il n'y avait que des adultes. Temps, s'ils avaient vu ce qu'ils prônaient, on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'enfants, dans un sens.
Ah oui, parce que avec les histoires de pédophilie, on ne préfère pas.
Alors votre question, parce que vous m'avez parlé, je vous demandais si vous aviez un questionnement ce soir, c'était par rapport à ce que vous avez vécu au sein de...
Oui, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, la dépression qui en a suivi.
Oui.
La reconstruction qui a dû être nécessaire.
Oui.
Et puis l'émergence d'une mélancolie maniaco-dépressive plutôt musclée. Ça, vous connaissez ce genre de truc.
Les quoi,
La mélancolie maniaco-dépressive.
Oui, je connais, oui.
Ah oui, c'est plutôt musclé, ça. Hein.
Oui.
Quand on est touché par ça, il faut être balèze.
C'est la forme, la plus grave de la dépression, la forme mélancolique.
Oui, effectivement, je confirme. En principe, on n'en guérit pas, mais on se stabilise.
Oui, aujourd'hui, vous êtes sorti de cette torpeur, de cette souffrance abyssale.
Pas mal de choses.
Oui, finalement. Vous avez quel âge aujourd'hui, si ce n'est pas indiscret?
Non, pas indiscret. 76 ans.
76 ans.
Oui.
Vous avez résisté à beaucoup de choses. Vous teniez un peu à la marge, ça veut dire que vous me dites, vous en faisiez partie tout en vous tenant quand même un peu à l'écart, ça veut dire que à côté, vous aviez une vie... Un travail, des amis
J'avais mes activités, ma vie sociale personnelle.
Il laissait cette possibilité-là aux adeptes.
Ben, je sais pas qui laissait, c'est que moi je la prenais.
Non, je vous pose la question parce que dans les mouvements sectaires, justement, il y a et notamment ceux qui ont des fins à viser, la vie après la mort. Enfin, finalement, les peuples, enfin les élus, parce qu'il y a ça dans ces mouvements-là. Ils coupent peu à peu les adeptes de tout lien et de tout lien avec la société perçue comme dangereuse.
Ah bah
donc
oui,
ça m'étonne société... que vous ayez, vous, réussi à maintenir une vie en dehors de ce mouvement sectaire, hein, appelons-le comme ça.
Ah bah oui, mais par intuition, je sentais que un peu, c'est très bien, je suis à l'écoute, trop, ça me convient plus du tout, ça me dépersonnalise, ça me déréalise aussi, quoi. Mmh.
Bien sûr.
Je suis un peu à côté de la plaque.
Oui.
Et quand on est déjà bipolaire, si on force un petit peu sur le mystique, alors là, on décolle, on devient vraiment perché un peu trop haut. Là.
Et c'est à ce moment-là que vous avez... parce qu'à ce moment-là, vous dites aujourd'hui que vous souffrez de troubles bipolaires, mais à ce moment-là, il n'y avait pas ce diagnostic posé.
Ben non, c'est moi qui l'ai posé à force de... lecture, alors à force d'écoute, j'écoute tout le monde, hein. Carl Jung, Caroline Dublanche, tous ceux qui
c'est un honneur que vous me faites, mais enfin, oui, je suis pas. Non. Oui, oui.
Bah, écoutez, c'est un honneur qui vous revient de justesse quand même. Mmh. Vous êtes quand même. Vous avez un certain génie.
Je vous remercie, mais je ne parlerai pas de génie. J'ai des certaines connaissances et voilà, que je complète de jour en jour. Vous savez, tous les jours, on essaie de s'améliorer. Mais pour revenir à vous, alors, donc en fait, vous, aujourd'hui, vous dites que vous allez mieux, vous êtes stabilisé, c'est-à-dire que vous prenez un traitement aujourd'hui vous...
Je prends toujours un petit traitement par sécurité.
Oui.
Parce qu'un bipolaire, c'est comme un volcan éteint, mais il y a toujours des résiduels qui remontent en surface, quoi, les guillemets. Donc, faut surveiller tout ça, quoi. Il suffit de pas prendre. Et puis même, je suis accroché à ces cachets-là. Le benzodiazépine.
Mais ça vous permet effectivement de stabiliser. Ça permet de stabiliser l'humeur.
Je dors comme un bébé. Ça me relaxe.
Mais c'est bien, voilà. Ça vous, bien sûr. Bon, et par rapport à ce mouvement-là, pardon, mais peut-être avant que j'oublie, vous ne l'avez pas signalé une fois que vous en êtes sorti, je pense à la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance, de lutte contre... Ils les connaissent.
Ils les connaissent depuis perpète.
Oui, ce mouvement est connu.
Ça fait 50 ans qu'il existe. D'accord. Donc,
fait des dégâts.
Bah oui, malheureusement. Il y a des suicides... Récemment, il y a une jeune fille qui a été mise en disgrâce par le gourou. Et puis, la fille était déjà mal en point, manquait de repères, de dialogue. Elle ne pouvait pas se reposer sur des amitiés fiables. Donc, elle pouvait crever dans son coin en réalité, quoi. Puis, elle n'était pas d'une séduction physique qui motivait suffisamment les hommes. À cause de ça, elle s'est retrouvée un peu isolée et puis elle s'est pendue, quoi.
Il n'y a pas eu l'ouverture d'une enquête suite à cela, d'une instruction
On estime qu'elle est majeure, qu'elle a fait un choix de mourir, de se pendre. Ça existe tous les jours, partout dans le monde entier.
Un choix qui a été aussi, enfin, si on peut parler de choix, très conditionné par le vécu.
Oui, parce qu'il y a eu un manque de responsabilité de la part des gens qui étaient autour.
Ouais.
S'il faut condamner quelqu'un, il faudrait condamner tout le groupe, moi j'estime.
Bah, au moins le gourou, déjà.
Surtout. Oui, c'est vrai que le gourou est une grosse part.
Le gourou et ceux qui bénéficient de ce système, en fait, d'exploitation, vous voyez
Il y avait des petits chefaillons qui avaient
tout le temps, c'est ça, qui gravitent autour.
Qui sont passés pour des références incontournables. Alors, qui font de la torture psychologique à ceux qui se rebellent. Ou à ceux qui contestent, critique interdite, remise en question interdite.
Mais oui, bien sûr.
Enfin, c'est tout à fait l'image du pervers narcissique, quoi.
Oui. Oui.
Emprise, domination, manipulation.
Oui. Mais vous connaissez très bien, vous, d'ailleurs, vous avez un vocabulaire recherché, on voit que, je ne sais pas si c'est à travers vos lectures psychanalytiques, ou enfin, vous êtes beaucoup documenté, on sent.
Oui. Ma vie, c'est la connaissance de soi et de l'autre.
Oui.
Ah, oui. Donc, je m'intéresse à l'esprit. Si on s'intéresse pas à l'esprit qui est soi, et puis plus que soi même, mais à quoi on sert dans la vie? Qu'est-ce qu'on va faire? Du rap?
Pourquoi pas, après tout?
Oui, pourquoi pas, si ça débouche sur quelque chose d'épanouissant.
Oui, oui. Et aujourd'hui, donc, vous vivez...
Aujourd'hui, je suis plutôt heureux, mais je souffre. Je souffre d'une vie en société où la communication, le dialogue normal d'un bon niveau psychique, affectif, avec des échanges d'informations, parce que il faut accepter de reconnaître qu'on a des lacunes.
Oui, mais c'est très difficile, le retour. Vous parliez du lien avec les autres, de votre méfiance, finalement, enfin, du fait que vous sortez peu. C'est très difficile, le retour dans la vie, après une expérience telle que celle que vous avez vécue.
Pour moi, non, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très artistique.
Oui, ça vous aide, on est d'accord, mais vous avez quand même commencé, avant de me parler de votre vécu, par me dire que vous ne sortiez peu. Enfin, vous sortiez peu et vous voyez, comme si l'extérieur vous paraissait de fait menaçant. Alors,
Oui,
je ne dis pas qu'il n'y a pas des menaces réelles, mais enfin...
Je suis dans des quartiers pourris où le respect n'existe pas, ou très peu.
Oui, mais vous avez la chance d'être locataire d'un petit pavillon avec un jardin. Vous pouvez aussi vous éloigner, peut-être aller un peu sur la Canebière. Vous voyez, sortir un peu dans les coins plus, comment dire, plus charmants.
Oui, j'y vais pas, ça me...
N'y allez pas.
Non, ça me fatigue et puis j'y trouve pas ce que je veux.
On marque une pause. On doit marquer une pause, hein, Alain, et je reviens vers vous.
Je vous en prie.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 € par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 €. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Vous voulez mon astuce pour les glaces Magnum?
Profitez de notre promo.
Évidemment, mais surtout, les cacher au fond du congélateur, derrière les haricots verts. Comme ça, les enfants ne tombent jamais dessus.
Vous allez pouvoir partager. Jusqu'au 14 juin chez Leclerc, pour l'achat d'un paquet de 6 glaces Magnum amandes, le deuxième est à moins 60%, soit 1,56€.
Comment ça, partager?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 6,06€ le kilo, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Que vous soyez plutôt politique avec Étienne Jernel.
Si l'Allemagne peut se permettre d'investir, c'est que sa dette publique est seulement 62% du PIB. Nous sommes à 113.
Ou humour avec Philippe Cavrivière.
Je rappelle que Claude a accompagné plus de 4000 malades vers la mort. Pardon, le gars, dès qu'il suit quelqu'un...
Votre grande tranche d'info, c'est RTL Matin, 7h-10h.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
On vous retrouve, Alain. En même temps, on voit bien, puisque vous dites que après vous avez pris conscience de votre mal-être vous cherchiez à travers. Finalement, je vous demandais comment vous aviez rejoint ce groupe. Vous parliez de vos troubles bipolaires et à ce moment-là, c'est vrai que il peut y avoir cette quête comme ça et même dans des moments de délires un peu mystiques. Hein, et on voit comment malheureusement la Miviludes alerte beaucoup sur la recrudescence des mouvements sectaires et notamment dans le domaine de la santé et du bien-être. Parce que, mais parce qu'il y a une grande demande. Il y a, comme vous dites, une souffrance, une quête de sens, des questionnements qui ont leur raison d'être, qui sont légitimes, mais qui malheureusement sont exploités soit par des gens sans scrupules et qui agissent pour manipuler les autres dans un but d'avoir le pouvoir sur eux, soit par des illuminés qui sont convaincus eux-mêmes de leurs idées délirantes, et parmi lesquels on peut retrouver... les pervers narcissiques ne sont pas illuminés, hein, ils savent très bien ce qu'ils font, mais on retrouve effectivement beaucoup de personnalités perverses dans ces...
Ah bah c'est une jouissance que, que d'être pervers narcissique, parce que on a une estime de soi, on est admiré, adulé, très recherché,
il y a l'emprise, aimé. Il y a l'emprise qui fonctionne évidemment à plein dans les mouvements sectaires.
Alors la partie sexuelle, quand j'ai côtoyé ce groupe, il arrive à un moment où on aborde les choses sérieuses, donc démerde-toi de ne pas éjaculer.
Mais vous aviez des, comment dire, c'était des séances collectives que vous aviez...
Il y a eu ça aussi, à une période, une seule fois.
Oui.
Et ça a choqué beaucoup la plupart des disciples, aussi bien filles que garçons. Les filles d'un côté entre elles, les garçons d'un autre côté entre eux, dans l'obscurité. Oui. Et enfin, il fallait qu'ils arrivent à faire monter l'énergie sexuelle jusqu'au ciel, quoi.
Donc, c'est ça.
C'est ce qui a été demandé.
Mais les filles, elles n'étaient pas concernées par cela, c'est-à-dire, vous dites...
Si, mais bon, elles n'ont pas compris le but réel. Bon, c'était pas forcément de la paraphilie, une déviance pervers. Pour eux, c'était une démarche normale dans l'accomplissement de soi.
Ils le présentaient comme tel, oui.
Mais en réalité, alors, au début, moi, j'essayais, donc avec la force mentale, mais j'avais pas les moyens, la maturité, les moyens intérieurs pour le faire mentalement. Donc, je mettais les mains sur le périnée pour empêcher l'évacuation d'une chose qui est normale pour rétablir l'équilibre entre toutes les hormones qui glissent dans le corps humain. Et la prostate a besoin d'évacuer. Sinon, elle s'enflamme, elle fait des hypertrophies et on a des problèmes de prostate.
Oui.
Alors, j'avais du sang dans le sperme qui arrivait. Je dis, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah oui, mais il n'y avait pas de relation. Il y avait des relations. Vous dites que le gourou avait des choisissait les disciples, les plus jeunes, les plus belles. Mais entre vous, vous aviez des relations sexuelles?
Ouais, non, j'en ai jamais eu.
Non.
Non. Peut-être que j'aurais pu, mais moi, vers 27 ans, j'ai tout arrêté. Hein.
Ah, mais vous avez arrêté tôt. Je pensais que vous aviez arrêté il y a une quinzaine d'années.
Non, j'ai arrêté beaucoup plus tôt.
Ah, bon, moi j'avais cru que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, faisiez partie de ce mouvement sectaire, vous m'aviez dit.
Oui, je les ai quittés il y a une quinzaine d'années, parce que je les voyais une fois par an, à l'époque des vacances.
Oui, vous y retourniez quand même, malgré tout.
Oui, je voulais comprendre jusqu'au bout, et puis... Mais sinon, vers 27 ans, j'ai arrêté le tabac, le shit, l'alcool, la sexualité à risque, débridé, suicidaire, parce que vous savez qu'un bipolaire est suicidaire.
Ça peut.
Son comportement sexuel est suicidaire.
Oui. Alors, les paraphilies, vous en citiez, hein, c'est-à-dire, on est dans des fantasmes sexuels ou finalement, des comportements sexuels qui peuvent impliquer effectivement la participation d'enfants, d'adultes non consentants, la souffrance, l'humiliation de la personne ou d'un partenaire, enfin, on parlait.
Non, on va parler au sadomasochisme et
Non, c'est encore autre chose. Enfin, l'important, Alain, c'est qu'aujourd'hui vous soyez sorti de toutes ces dépendances aussi dont vous nous parlez, parce que il y a aussi cela dans les troubles bipolaires, c'est que les personnes en souffrance sont à plus haut risque d'addiction, qui est une, il y a une quête derrière de calmer le mal-être. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir partagé votre vécu avec nous ce soir. Et puis, prenez soin de vous, continuez à écrire comme ça et faites une belle caresse à la petite Minette.
Jusqu'à minuit 30,
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Sur RTL. Et il va être en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris le 19 novembre 2025. Les places sont en vente.
Dutch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Demain, direction l'Allemagne de 1934, quand Adolf Hitler a fait éliminer sans pitié ses anciens compagnons de lutte. La nuit des longs couteaux, la purge sanglante, c'est demain à 15h dans Entrez dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
22h, minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi si vous souhaitez échanger avec moi. C'est Hélène qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Eh ben merci. Ça fait toujours un petit peu étrange hein, parce que je vous écoute beaucoup. Et voilà.
Merci. Ben, merci d'appeler ce soir. Alors, voilà, parce que ça nous fait très plaisir que vous soyez à l'écoute, et puis aussi très plaisir qu'on vous appelle, parce que si vous n'appeliez pas, ben, il n'y aurait plus d'émission. C'est grâce à vos appels qu'il y a Parlons-nous. Je vous écoute.
Alors, moi, j'appelle parce que, voilà, j'ai 41 ans, là, cette année.
Oui.
Et en fait, j'ai l'impression d'être au stade d'une vie quand on a 20 ans et qu'on a... on va dire toutes les possibilités devant soi, sauf que moi ça m'enchante pas parce que c'est à la suite d'une rupture là qui est très douloureuse pour moi.
Ah oui.
Voilà. En fait, j'ai mon conjoint avec qui j'étais depuis 14 ans, donc oui. Bientôt 15.
Oui.
J'ai quitté ma région d'origine pour le suivre, pour m'installer là où il habitait.
Oui.
Et on a acheté notre maison, on a eu 2 enfants, et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment idyllique, quoi, la maison de rêve, les enfants, tout allait bien, et il avait un travail qui faisait qu'il était encore au quotidien avec moi, mais il avait quand même une formation pour être pilote d'avion, mmh. Et au début, voilà, il avait un petit peu de mal à trouver. Et il a commencé après à trouver des postes de plus en plus éloignés de la maison. Et donc, j'ai dû m'adapter et puis élever les enfants seuls, on va dire, les 3/4 du temps, voire plus que 3/4 du temps.
D'accord.
Voilà, donc moi...
Sans vous concerter, quand il trouvait ses postes de plus en plus éloignés, vous en aviez parlé ensemble ?
Ben, on savait tous les deux que ça allait arriver. Et puis moi, c'est vrai que je lui souhaitais, puisque c'était son... Enfin, on va dire, c'était sa volonté de faire ça. Il avait fait la formation pour, et il était en liste d'attente, on va dire. Donc, ça faisait plusieurs années qu'il faisait des petits boulots qui lui plaisaient moins. Mais dans l'espoir que ça marche un jour. Donc,
Mais t'es pilote de ligne ?
Oui, voilà. Oui. Enfin, pas tout au début. Il était d'abord pilote d'affaires et puis donc dans des petits avions. Alors là, ça lui plaisait bien parce qu'il partait dans toute l'Europe et puis c'était des petits terrains. Il avait de la maniabilité, beaucoup de pilotage. Voilà, il se faisait plaisir et il atterrissait parfois dans des endroits un peu insolites, en altitude ou autre. Et après, en fait, là où ça a basculé, enfin, j'ai le sentiment, c'est quand il est rentré dans les grandes compagnies aériennes où en fait... Il avait beaucoup plus de routine au travail.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui déteste la routine. D'accord. Et donc, il avait à la fois la routine au travail et à la maison. Et je pense que... Enfin, bon, après, ça, c'est des suppositions. Mais
oui.
Bon, en tous les cas, voilà, ça n'allait plus. Mmh. Et je sentais, voilà, quand il rentrait à la maison, qu'il fallait encore qu'il ait du temps pour lui à faire ses activités personnelles. Et en fait, il m'incluait... rarement, très peu dans les projets en fait communs. Donc moi, je me sentais délaissée à la fois au quotidien.
Mais oui.
Parce que voilà, j'étais toute seule. Donc c'est sûr que plein de femmes diront ah ouais, bah c'est super de pas avoir
non.
son bonhomme à la maison tout le temps. Mais en réalité, en fait, peut-être une semaine ou un soir de temps en temps, on peut se faire plaisir, regarder, choisir le programme télé, manger ce qu'on veut à l'heure qu'on veut, etc. Mais en fait. Répéter sur des durées aussi longues, c'est dur, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu, enfin, ma vie de famille dont je rêvais.
Oui.
J'ai pas eu le sentiment de l'avoir eu. En fait, je l'ai eu moi toute seule.
Et puis vous aviez vos enfants. Donc, en plus, vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Enfin, c'est vous qui étiez
qui veillait à l'éducation de vos enfants seul.
Voilà, c'est ça. Ah oui. En fait, moi, j'allais au travail. En plus, j'étais prof à l'époque.
Enfin, oui.
Donc, j'avais un travail. On ne peut pas choisir où on travaille. Donc, moi, j'avais un établissement qui était à 1h20 de route.
Ah oui.
Donc, une heure, là, je posais la petite chez la nounou à 5h50 le matin. Je partais au travail pour être à 8h devant les élèves. Je refaisais 1h20 de route le soir et je récupérais la petite. Et après, je faisais ça tout le temps. Après, en fait, les enfants sont aussi des fois malades au milieu
bien
de la nuit.
Bien sûr, mais oui.
Quand on en a un, il y en a un. Quand il y a deux et des gastro et que nous aussi, on l'attrape, on connaît le tableau. Donc, c'est vrai que c'était des moments très durs à vivre. Oui. Et en fait, moi, j'ai toujours été dans l'attente des moments où ils revenaient pour passer des bons moments en famille. Bien donc, en fait, mon bonheur, il était un peu soumis à sa présence. Et j'étais toujours dans... Et puis, voilà, étant en plus ayant déménagé, je n'avais plus mes amis de faculté, d'enfance.
Oui, vous aviez changé de région.
Voilà. Et j'avais pas trop de soutien par là. Quoi. Voilà, il y a ça. Et puis en fait, j'ai vraiment pris sur moi parce que je suis pas quelqu'un de solitaire. Et pour l'accepter tel qu'il était, avec son métier et les contraintes qui étaient inhérentes à son métier.
Oui, il y avait les contraintes, certes, liées à son métier, mais vous me dites qu'il détestait la routine et que même quand il rentrait à la maison, ces moments que vous attendiez, forcément, vous ajoutez qu'il lui fallait encore du temps pour lui. Alors, quand est-ce qu'il y avait du temps pour vous et pour ses enfants, d'ailleurs ?
Pour les enfants, beaucoup. Beaucoup.
Ah bon,
mais moi j'avais mais j'en ai aussi souffert parce que c'est ce que je disais. Moi, quand il rentrait, souvent j'ai l'image et il se jetait à quatre pattes pour jouer au Lego, Duplo ou rigoler avec les petits, et leur lire des histoires, voilà. Et moi en fait j'étais seule dans la cuisine, enfin bon, c'est une grande pièce, mais et moi j'aurais préféré aussi qu'ils viennent me voir, boire une bière, discuter de notre journée.
Bien sûr.
Et pas que tout le temps.
Oui.
Enfin, il avait en fait ces élans de tendresse et d'affection et de préoccupation envers les enfants et moins pour moi. Mais après, il a toujours été plus sensible. Enfin, son amour se manifestait plus par des actes, on va dire. Et voilà, il m'aidait à planter un piquet dans le jardin alors qu'il détestait ça. Bon, pour lui, c'était son acte d'amour. Où il bricolait, il réparait plein de choses, il allait faire des courses. Où c'était pratico-pratique, en fait.
Oui, mais on comprend qu'à un moment, vous ressentiez un manque parce que vous étiez déjà très seule la majorité du temps, et si quand il n'était là, il n'était pas un peu tendre et enveloppant pour vous, enfin...
Voilà.
C'est compliqué pour vous en tant que femme.
En tant que femme, et j'ai aussi eu une enfance avec des parents qui étaient... Enfin, moi je dis toujours, c'était des parents fonctionnels.
Oui.
Ils m'ont apporté une éducation, une sécurité financière, ils m'ont donné à manger, etc. Mais j'ai pas eu souvenir d'avoir des moments de complicité, de discussion, de voix, de bisous, de câlins, de tendresse, même de juste de mots agréables.
Oui.
Voilà. C'est vrai que cette famille, en fait, que j'avais construite, enfin là.
Oui. Voilà, elle vous tenait d'autant plus à cœur, quoi.
C'est ça.
C'est une façon pour vous de chercher à réparer. Votre histoire de famille, votre histoire d'enfant.
Voilà.
Et aujourd'hui, parce que vous me parlez là, vous avez commencé en me disant que vous avez toutes les possibilités devant vous comme à 20 ans. Alors on va y revenir.
Non, mais c'est...
Suite à cette rupture, ça veut dire que vous êtes séparés aujourd'hui C'est récent?
Alors en fait, c'est survenu après un long parcours compliqué.
Oui.
Il y a 3 ans, en fait, j'ai découvert qu'il me trompait. Donc ça a été vraiment le choc. Au boulot, on va dire, c'est le côté classique pilote-hôtesse.
Ah oui.
Donc elle, je sais pas beaucoup de choses, hein. Je sais juste qu'elle a été aussi mariée avec 3 enfants, qu'elle avait aucune intention de quitter quoi que ce soit de sa famille. Elle, je pense que c'était plus pour le... Voilà, mais lui, ça lui a fait un genre de déclic où il... voilà, alors bon, pendant 3 ans, enfin moi, au début, j'ai essayé de lui pardonner. Je me suis dit, voilà, ça peut arriver dans une vie, ça fait 15 ans, il a 40 ans, une tromperie, je sais que ça arrive à beaucoup de couples. Moi, je suis très attachée à la famille et je peux, enfin, j'ai essayé de comprendre et de me dire que ça pouvait s'arranger, de discuter. Je lui ai proposé d'aller voir des psychologues, etc. Et en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était... Il n'y avait que moi, quoi, qui mettait de l'énergie à ça. Et qu'en fait, voilà. Et donc, ça a été des années très difficiles parce que, bon, vous voyez, en fait, il partait avec sa valise. Oui. Et moi, je ne savais pas, en fait, je ne savais pas s'il la verrait, s'il serait dans le même équipage ou pas, si...
Oui, il vous rassurez pas par rapport à ça.
Ah non, pas du tout.
C'est ça, il...
Ah non, il discute pas, il grognait, enfin, il a jamais... Non, enfin, il grognait.
Oui, il s'exprime
énormément.
Et même dans un moment de crise.
C'est pire, en fait, ça le fait fuir.
Oh là là.
En fait, les moments où ça va, il a toujours été là, et il était très proche de moi dans les moments où j'étais bien, où tout allait bien, où on était joyeux. Et dès qu'il y a des moments difficiles, en fait, il fuyait, voilà.
Oui, mais il avait de la chance que vous réagissiez comme ça. C'est-à-dire que vous cherchez à comprendre, vous cherchez à améliorer votre relation, et c'était là où c'était à lui de vous réassurer, de vous dire finalement, enfin, qu'il tenait à votre relation. Et en fait, même là, il est dans l'évitement.
Voilà. Et donc, voilà, ça a fait ça. On est reparti un petit peu en vacances. Et puis, on a fait... Moi, j'étais bien, j'étais heureuse. Et lui, il avait l'air aussi. Si je reprends les photos, en fait, n'importe qui à qui je peux montrer ces photos me diront, waouh, ben, c'est des magnifiques moments, vous avez l'air trop bien. Et en fait, lui, il m'a dit que non, il n'était pas bien, que... Bon. Et après, j'ai senti qu'il était de nouveau distant. Et donc là, c'est moi qui ai dit, écoute, je veux que tu prennes les affaires et que tu partes de la maison. Je peux plus supporter. En fait, moi, j'ai vécu le calvaire pendant 3 ans.
C'est long.
En fait, c'est une horreur. Enfin, c'est un cauchemar.
Oui.
Et après, ben, malgré tout ça, en fait, et c'est là où je m'en veux aussi, parce que là, on est séparés.
Vous en voulez de quoi?
Mais parce que je me dis que s'il me retape à la porte ou quoi, je voudrais qu'il revienne, mais en fait c'est j'ai vraiment un clivage entre ce que la raison me dit quand je le vois sur le papier, ou si une copine me racontait ça, évidemment que non, enfin faut surtout pas, enfin c'est une catastrophe, il s'est comporté de manière horrible. Il m'a dit à la fin quand même aussi qu'il voulait vivre sans contrainte, qu'il voulait faire ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, que les 15 ans qu'on avait vécu ensemble, pour lui ça signifiait rien, et qu'il voulait il vivait au jour le jour, et que là il se sentait pas bien, et que du coup ben il partait. Mais en fait,
c'est très dur à entendre pour vous, parce que de balayer comme ça, voyez, c'est lui, mais sans tenir compte de vous. Alors, j'entends, vous êtes à la fois, vous dites, si une amie vous racontait cela, ce que vous avez vécu, vous lui direz, mais... Voilà, c'est un enfer, pour reprendre votre expression. Vous étiez très seule, et en même temps, vous dites, il frapperait à la porte. Vous seriez prête, vous pourriez recraquer. Mais il y a combien de temps que vous êtes séparés aujourd'hui?
Alors, il est parti fin octobre.
C'est très récent aussi, hein. C'est aussi compréhensible que vous vous sentiez très fragile. Vous voyez, c'est... Vous avez, vous, mis beaucoup d'énergie dans la construction de votre couple et de la famille à laquelle vous êtes très attachée. Et au regard de votre histoire de famille, de votre histoire d'enfant, ce n'est pas surprenant. Hein, vous voyez, il y a ça aussi qui joue beaucoup et qui vous, au-delà du chagrin que vous pouvez éprouver, mais qui vous maintient dans ce lien. C'est-à-dire que créer votre famille, c'était aussi une façon de vous réparer, de chercher à vous réparer.
Oui, et puis en fait, j'en ai marre parce que je vois tout le monde autour qui est bien, qui est là, il y a les voilà, fêtes des mères, la Pentecôte, les petits, tout le monde part, fait des trucs, et puis en fait, moi, je suis là, je tourne en rond. En plus, du coup, financièrement, moi, j'avais un travail qui me permettait quand même d'avoir une paye décente, et voilà. Oui. Et sauf qu'en fait, j'avais souhaité changer de métier, donc je lui avais posé la question, on avait discuté, et il y a 4 ans de ça, ou 4 ans et demi, où il m'a dit pas de souci, j'assure, pendant que tu changes ton... Que tu te reconvertis, je gère, fais-toi plaise, machin. Donc, j'ai fait une formation pendant 3 ans, en plus de m'occuper des enfants, de mon travail,
Une formation et de quoi?
Alors, de conseillère en plantes médicinales, en herboristerie.
D'accord.
Donc, j'ai fait ma formation, j'ai eu la validation, j'ai créé mon entreprise. Et en fait, c'est le moment où, enfin, entre les examens et le moment où j'ai dû fonder mon entreprise, c'est là où j'ai tout appris. Là,
ah oui.
Où ça, et en fait, donc, financièrement, j'avais plus de revenus. J'étais en pleine création d'entreprise et il faut vraiment de l'énergie pour faire la communication, pour chercher des potentiels clients, pour faire des conférences, et me faire connaître. Et en fait, moi, je pouvais plus parce qu'il continuait de partir au travail tout le temps. Donc, fallait imaginer chaque fois qu'il partait, l'état dans lequel je me trouvais à faire des crises d'angoisse, de panique, à essayer de le joindre le soir quand j'arrivais pas à le joindre. Je m'endormais pas parce que me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans l'hôtel avec elle? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il...
Vous étiez très mal,
Tous les jours. Et pourtant, je tenais bon, je me suis occupée tout le temps des enfants, j'ai toujours été là pour eux, j'ai tout fait comme il fallait. Et en fait, donc j'avais ça, et après, j'ai dû prendre 2 autres boulots en plus, parce que là, sinon, je peux pas, en fait.
Donc là, vous cumulez deux autres boulots en plus de...
Ah non, j'en ai 4.
Bon, mais vous allez vous épuiser, là.
Le problème, en fait, c'est que là, du coup, cette maison qui était si bien à vivre en famille, elle est un peu excentrée.
Oui.
Donc, en termes d'activité, de choses à faire, c'est bien. Moi, c'était une de mes passions, le jardinage, des petites poules et tout. Mais le problème, c'est que là, je me sens tellement seule que j'y prends plus aucun plaisir. J'ai envie. En fait, je suis plutôt assez sociale. Sociable. Et donc, quand ça va pas, moi, je sais quand j'ai des montées d'angoisse ou de stress ou que je me sens vraiment pas bien, la seule chose qui va m'apaiser, une des choses qui marche le mieux, c'est de voir du monde, de discuter, de rigoler. Et quand j'ai ça, voir des amis, j'arrive à passer une bonne soirée.
C'est bien, que vous y arriviez. Vous voyez que le fait d'être, de voir du monde, vous n'êtes pas hermétique. Au contraire, là, vous vous sentez mieux.
Je me force, en fait. Je me force parce que
mais vous y arrivez. Peut-être, effectivement, là, c'est pas la solution de rester dans cette maison isolée aujourd'hui. Et puis, maison qui est chargée d'histoire et...
Voilà, après, le problème, c'est que vu que je suis pas de cette région, que je me dis, puis même financièrement, si je revends la maison, je peux pas racheter autre chose de correct. Je vais être dans un petit appartement, je ne sais où, avec même pas forcément une chambre pour les enfants.
S'il y a déjà, comme vous dites, une revente de la maison, peut-être pour le moment ça vous paraît, vous êtes fatigué, c'est compliqué, mais c'est important pour la suite et peut-être d'ailleurs pour votre projet. Vous voyez que vous vous retrouviez pas dans une situation précaire. Et puis je ne sais pas si vous étiez mariée.
Non, donc...
Oui, donc il n'y a pas... Mais enfin, il peut
non, il n'y a pas de prestations compensatoires, il n'y a pas de choses comme ça.
Mais la vente de la maison peut vous permettre quand même de voir venir.
Bah,
de ne pas vous retrouver dans un tout petit appartement. Enfin, vous voyez, il faut aussi un lieu où vous vous sentez bien avec vos enfants.
Les enfants, ils ont du mal à... Enfin, eux, ils sont vraiment attachés à leurs copains, alors je